Le thème donc de ce matin, c'est unité, mission, unité, évangélisation. J'aimerais repartir de mon témoignage. Je me suis posé la question hier en pensant à ça, mais d'où vient ma passion pour l'unité? Même si c'est que depuis seulement quelques années que j'ai la joie de prêcher dans des conventions avec des pasteurs, avec d'autres prêtres, avec des laïcs, avec des ministres de toutes les confessions, pour ensemble annoncer dans l'unité le nom de Jésus. En fait, cette unité s'origine dans mon ADN, dans mes parents. Particulièrement mon papa qui était directeur de l'orphelinat d'Oran. Et j'ai grandi dans une atmosphère pied-noir vraiment de paix, où on n'était pas là à anti-arabe ou pro-arabe, parce que mon papa, il accueillait des enfants aussi bien arabes que pieds-noirs, que colons. Et quand il a fait son service militaire en Algérie, c'était terrible pour lui de voir tuer des arabes, des Algériens. C'était ses frères. Alors qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand on voit dans la Bible la volonté du Père, elle est claire. Jean 6, 39. Or telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun, A-U-C-U-N, aucun, c'est aucun. C'est-à-dire que tous sont appelés à rentrer dans le cœur de Dieu, tous tes enfants dispersés. Pour le cœur de Dieu, l'Église, c'est l'humanité entière. C'est-à-dire qu'il veut que tous rentrent. Le cœur de Dieu, c'est l'Église. Le cœur de l'homme est pareil et le même partout. Les péchés, on les retrouve partout. Et surtout, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu est la même pour tous et partout et toujours. Voilà pourquoi, non seulement il est urgent d'annoncer, mais il est urgent de ne plus perdre de temps en dispute, en énergie perdue à régler nos petits problèmes. Il y a beaucoup de temps et d'énergie perdue entre nous et à l'intérieur de l'Église. Quand on parle de l'unité, les amis, je crois que c'est pas facile parce que il y a une remise en cause nécessaire, mais aussi bien à l'intérieur de nos communautés chrétiennes, réalité ecclésiale, on les appelle comme on veut, Église, tout ce que vous voulez, que entre les différentes confessions chrétiennes. L'unité commence d'ailleurs dans mon cœur avant d'être une unité qui puisse déborder partout. Vous savez, quand il met la lumière sur un point où on doit avancer, c'est jamais pour nous accuser. C'est jamais pour nous condamner. Le Seigneur n'accuse pas. L'accusateur, il a un nom, c'est le diable, c'est Satan. Il n'y a que lui qui accuse. Dieu n'accuse jamais. Et les hommes, donc nous, quand on accuse, on fait le jeu de Satan. Alors, les freins à l'évangélisation du monde sont nombreux, l'individualisme, la timidité, des peurs. Mais Jésus nous a donné une priorité absolue dans son testament. C'est une de ses dernières paroles. Jean 17 est très clair. Il parle à son Père. C'est pas une exhortation, c'est une prière. Ça veut dire que sa prière est entendue. Si la prière de Jésus n'est pas exaucée, ça sert à rien de prier. On perd notre temps. Donc la prière de Jésus est exaucée, c'est sûr. Le problème, c'est que c'est pas forcément tout de suite et que ça dépend pas que de lui. Mais sa prière est claire, vous l'avez ici, j'ai une autre traduction, mais c'est pareil. Juste le verset 21, c'est qu'ils soient un en nous, eux aussi. Le but, c'est pas l'unité. L'unité des chrétiens n'est pas un but. Le but, c'est le salut de tous. Donc, c'est qu'ils soient un eux aussi pour, ce pour est fondamental, c'est la cause. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc les divisions sont probablement le frein, l'obstacle principal à l'évangélisation du monde. Et là, faut se bouger. Il y a une urgence, vous êtes là aussi tous, on a un cœur pour l'unité, je pense. Hein. Vous imaginez sur la plage et quelqu'un en train de se noyer. Vous êtes là avec des amis, vous discutez pour savoir quelle serait la meilleure façon d'aller sauver ce pauvre bougre. Mais problème, vous n'êtes pas d'accord car chacun a sa méthode de sauvetage et pendant ce temps, le gars est en train de couler lentement mais sûrement. Quelle est la priorité des disciples de Jésus? Résoudre les différences de théologie, de sensibilité, de forme de prière ou bien répondre au mandat missionnaire qui est la raison d'être de l'Église? Nous entendrions toutes ces âmes crier « Au secours, nous coulons !» Allons-y, allons secourir ceux qui sont en train de se perdre. Ensuite, mais ensuite seulement, nous prendrions le temps de confronter nos techniques de sauvetage, nos avis sur différentes questions plus ou moins secondaires. Et alors, notre unité se renforcerait d'abord dans l'action, en chemin et ensuite dans le partage, et les résultats de nos initiatives de sauvetage respectives ne feraient qu'augmenter. » Fin de citation. Vous voyez, cette image toute simple, mais qui parle. Il y a une urgence. Cette urgence, elle est depuis 2000 ans, hein. Mais je crois qu'elle est en train de grandir. Vous voyez, comment annoncer l'évangile de la paix et de la réconciliation si nous restons divisés, c'est-à-dire si nous restons séparés? Nous sommes divisés. Je ne suis pas personnellement pour une espèce d'angélisme de l'unité. Mais vous inquiétez pas, on est tous chrétiens, tout va bien, il n'y a pas de différence. S'il y a des différences, si nous avons des divisions, et il faut avoir le courage de les regarder en face. Diviser, oui, séparer, non. Parce que, bien sûr que le diviseur, Satan, on peut traduire diviseur selon qu'on prend Satan, diabolos, au diviseur et accusateur. C'est un peu son nom en français. Bien sûr qu'il veut nous diviser, donc faut pas en rajouter. Donc au niveau des divisions, essayez petit à petit de réduire la fracture, comme on dit. Un peu comme une fracture, il y a des médecins dans l'assemblée, hein, ou des chirurgiens. De réduire petit à petit la fracture. Donc c'est en chemin. En chemin. L'unité est à la fois un don du ciel, c'est d'abord un don. L'unité se reçoit comme ça, à genoux. L'unité, elle vient d'en haut. Amen ou pas amen? C'est pas, on peut faire tous les efforts qu'on veut, toutes les conventions, tous les machins, il faut le faire, mais c'est Seigneur, on n'y arrive pas nous. On s'est bouffé le nez pendant des siècles. On s'est demandé pardon, hein. C'est magnifique les demandes de pardon partout, mais ça suffit pas encore. Il faut que tu nous aides, Seigneur. On t'en supplie. L'unité, elle se mendie comme des pauvres. L'unité, il faut laisser notre raison cartésienne à un moment, et l'unité part d'un cœur qui aime et d'un cœur qui prie et d'un cœur qui reçoit. Mais en même temps, tous les deux, c'est un engagement. C'est une passion. Je dirais c'est un don, c'est un engagement et c'est une passion. Directement lié, toujours lié à « afin que le monde croie ». C'est exactement comme les miracles. C'est exactement comme l'effusion du Saint-Esprit. Il y a toujours la finalité. Acte 1.8, c'est la dernière parole de Jésus. Vous recevrez une dynamis, une force, une puissance qui vient du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est donné par la mission. Le Saint-Esprit, c'est pas donné pour mon petit nirvana. Mon petit Saint-Esprit, tout ça. Moi, que je suis bien. Ah, oh, je vais de convention en convention. Les signes et les prodiges, c'est pareil. Reprenez la finale de Marc 16, qui est très claire. Très, très claire. Tous les derniers versets de 15 à 20. Particulièrement le 20 qui reprend le 16 ou le 17. Hein? Les signes et les prodiges, c'est pareil pour la guérison. C'est pour accompagner la parole. Toujours pour la mission. Il en est de même pour l'unité. Jamais perdre de vue. Donc ça veut dire que la partie qui vient du ciel, on la reçoit. Et la partie concrète, c'est à nous de la mettre en pratique. C'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites à CTM, c'est ce qu'on essaie de faire pauvrement, chacun à notre niveau, c'est s'engager. J'aimerais justement arriver dans le concret. Parce que je veux pas insister sur le fait que c'est une urgence, vous êtes tous convaincus. Je veux pas insister sur le fait que c'est absolument indispensable, vous en êtes convaincus. J'aimerais aussi ajouter que c'est un combat et que le démon, il est furax, mais il est crabouillé. Il est foutu de toute façon, mais il faut le savoir, il est furax. Et quand vous allez sur le terrain là pour chercher les âmes, on provoque le démon, je suis désolé, il ne faut pas avoir peur, tranquille. J'espère que personne n'a peur du démon, hein, parce que c'est le démon qui a peur de nous. Amen. Il a peur, on ne craint rien. J'aime pas trop parler du démon, moi vous savez pourquoi? Parce que je perds du temps. C'est Jésus qu'il faut parler. C'est un combat, et le même combat est le combat de l'unité. Lui, c'est le diviseur. Il essaie de nous séparer pour mieux isoler, pour vaincre. Donc à chaque pas qu'on fait dans l'unité, il faut savoir que c'est un combat. Alors sans avoir peur, mais il faut savoir aussi que c'est un combat. Les amis, alors il y a un passage qui peut nous aider. L'apôtre Jean, qui a posé sa tête sur le cœur de Jésus, le mystique, le théologien, celui qui est resté jusqu'à la croix, le plus jeune d'ailleurs, qui dit à Jésus, « Nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne l'en empêchez pas. » Car qui n'est pas contre vous est pour vous. Luc 9, 49, 50. Alors concrètement, on a deux tentations. Permettez-moi de citer François Bergoglio, un petit prêtre de Rome, qui dit « Évitez deux tentations récurrentes. La première, c'est de chercher la diversité sans l'unité. » Première tentation, la diversité sans l'unité. Cela arrive quand on veut se distinguer, quand on crée des coalitions, des partis, quand on se raidit sur des positions qui excluent, quand on s'enferme dans des particularismes propres, jugeant peut-être qu'on est meilleur et qu'on a toujours raison. Ce sont les soi-disant gardiens de la vérité. Alors on choisit la partie, non le tout. On choisit la partie, non le tout. L'appartenance à ceci ou à cela avant l'appartenance à l'Église. Et je pense que dans le cœur de François, c'est comme dans mon cœur, l'Église, il n'y en a qu'une. Parce que pour le Seigneur, l'Église, il n'y en a qu'une. Amen ou pas amen. Et elle dépasse encore une fois les frontières de toutes nos églises réunies. On devient des supporters qui prennent parti plutôt que des frères et sœurs dans le même esprit. Des chrétiens de droite ou de gauche avant d'être de Jésus, des gardiens inflexibles du passé, des avant-gardistes de l'avenir avant d'être des enfants humbles et reconnaissants de l'Église, alors il y a diversité sans l'unité. Première tentation. Deuxième tentation, la tentation opposée en revanche, c'est celle de chercher l'unité sans la diversité. Cependant, l'unité devient uniformité, obligation de faire tout ensemble et tout pareil, de penser toujours de la même manière. De cette façon, l'unité finit par être homologation, il n'y a plus de liberté. Mais dit saint Paul, là où est l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Et donc François dit, notre prière à l'Esprit Saint, c'est alors de demander la grâce d'accueillir son unité, un regard qui embrasse et qui aime, au-delà des préférences personnelles, son Église, notre Église, de prendre en charge l'unité de tous, de, écoutez bien, les amis, oubliez tout le reste si vous voulez, de mettre fin au bavardage, qui sème la division et aux envies qui empoisonnent. Car être des hommes et des femmes d'église signifie être des hommes et des femmes de communion. C'est de demander également un cœur qui sente l'église, notre mère et notre maison, la maison accueillante où on partage la joie multiforme de l'Esprit Saint. Et vous savez, ça, c'est ce que vivent nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Pendant que je vous parle, priez pour eux. Ne passons pas un jour sans prier pour eux. Ça peut nous arriver un jour, hein. Prions pour eux. Et eux, ils vivent déjà l'unité. L'unité dans le sang. Quand les terroristes et puissances mondiales persécutent les minorités chrétiennes, ils ne demandent pas « Mais es-tu luthérien? Es-tu orthodoxe? Es-tu catholique? Es-tu réformé? Es-tu pentecôtiste ?» Non, ils demandent « Es-tu chrétien ?» C'est-à-dire « Es-tu de Christ ?» Ils n'en connaissent qu'un, le chrétien. L'ennemi ne se trompe pas, il sait bien reconnaître où est Jésus. L'ennemi ne se trompe pas. Hein. On peut applaudir nos frères et sœurs qui risquent leur vie. Et une dernière citation de notre cher François qui travaille beaucoup pour l'unité. Il est beaucoup critiqué à l'intérieur même de l'Église catholique parfois parce qu'il a des gestes prophétiques de fou. Hein. Il dit « Marchez ensemble, travaillez ensemble, nous aimer et cherchez ensemble à expliquer les différences, nous mettre d'accord mais en chemin ». C'est en chemin, c'est en travaillant ensemble. Alors, il y a plein de domaines, bien sûr, vous le savez, là, je donne pas des détails, mais on peut travailler ensemble. Comment on fait en ce moment? Prier ensemble. Ça, c'est le plus facile. Prier ensemble, pardonnez-moi, mais c'est assez facile. Il faut le faire, hein. Tout part de là. Donc déjà, le faire. Se rencontrer. Parler, partager. Pas trop parler de nos églises. D'ailleurs, c'est beau parce que ici, moi, je rencontre quelqu'un, je sais pas, je lui demande pas, je sais pas s'il est catholique, réformé, pentecôtiste, machin, ou rien du tout. Bon. Je sais pas ce qu'il est. C'est bien. Mais ce qui est important, c'est que chacun sache qui il est. Amen ou pas amen. Ça c'est fondamental. Que chacun sache bien qui il est pour vivre dans cette unité. Et concrètement, on peut vivre ce que s'appelle l'évangélisation intégrale, l'évangile de la charité, la défense de la vie. Travailler ensemble pour aller vers les plus pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est le programme de Jésus, Luc 4, 18-19. Dans la synagogue Nazareth, il commence et il annonce, il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres avec cette option préférentielle pour les pauvres. Les pauvres, pas que matériels, hein. Concrètement, pour l'avoir expérimenté à l'intérieur de l'église, je vous donne des petits conseils pour des initiatives ensemble. Il y a des conditions sine qua non pour travailler ensemble. Je l'ai vécu à l'intérieur de l'église catholique, mais je crois qu'on peut le vivre aussi entre églises. Un, point de départ, amitié fraternelle entre spécialement les leaders, les organisateurs. Souvent tout part de là. On se connaît, on s'aime dans le Seigneur. Hein. C'est pas être sympathique simplement, c'est on s'aime dans le Seigneur. Amitié. Deuxièmement, priorité à l'annonce kérigmatique, ce qui nous unit absolument. Troisièmement, détachement et gratuité. Je travaille pas pour ma boutique, mon église, ma communauté.
Je travaille pour Jésus, amen ou pas amen? Ça, c'est le plus difficile, parce que quelque part... Allez, une petite vocation, Seigneur, si un jeune qui voudrait être prêtre dans ma fraternité, j'embauche. Là, toi. Voilà, non, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, il y a toujours cette arrière-pensée, ben, alors il faut lutter contre ça. Non, c'est détachement absolu. Avant-dernière condition, renvoyer les gens dans leur milieu, pas vouloir forcément attirer à soi, parce qu'à un moment, quelqu'un qui a évangélisé, il faut aussi qu'il trouve une communauté. Donc, si possible, envoyer dans une communauté vivante, sans parti pris. S'il y a une catho plus vivante qu'une évangélique, je l'envoie chez les cathos. Je m'aventure sur un terrain un peu délicat, mais je dirais aussi lié peut-être à sa culture, ou le laisser libre, lui faire une proposition, mais après c'est lui qui choisit. Mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez, c'est Saint Paul. Moi, ma ligne de direction, c'est Romains 15, 20, 21. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon ce qu'il est écrit. Ceux à qui on n'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler. De grâce, n'allez pas piquer les poissons des autres. Je suis clair, dans tous les sens. Il y a assez de païens. Il y a du taf pour tout le monde. Il y a assez de païens. N'allons pas piquer les fidèles des autres églises, quel que soit le sens. Après que quelqu'un décide, parce qu'il prêche, j'en ai rencontré qui étaient cathos, qui sont évangéliques, qui étaient évangéliques, qui sont cathos. Oh, c'est ta vie, c'est pas moi qui peux juger. Mais nous, ensemble, quand on fait des choses ensemble. Voilà. Et tout ça avec amour, humilité et courage. Amour, humilité et courage. C'est valable pour la mission, c'est valable pour l'unité. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on vit ici, c'est fantastique. On apprend à s'aimer, à se connaître. Et puis avec humilité, pas à nous la gloire, Seigneur, pas à nos communautés, pas à nos églises, mais à toi. Et avec courage, car c'est un combat. Je vous invite à vous lever une minute. Le Seigneur, il craque. Qui a des enfants, lève la main là. Oh, il y a beaucoup de parents, soyez bénis. Moi, j'en ai beaucoup, mais spirituels. Hein. Voilà. J'espère que ça vous arrivera jamais. Peut-être que ça arrive à certains, que vos enfants sont divisés. Que vos enfants, il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche, il y en a un qui se drogue, il y en a quand même un qui est resté plus ou moins dans le bercail, et puis un jour, par la grâce de Dieu, par votre fidélité, votre patience, votre persévérance, un jour ils reviennent tous à la maison, ils sont tous réunis, tous unis. Pensez à ça, vous imaginez votre joie là, vous craquez quoi. C'est exactement ce que fait le Seigneur. Quand il nous voit unis, il craque complètement. On va tous se prendre la main, un geste tout simple. Il n'y a pas de longue prière prévue pour ce moment, mais un geste tout ça. On va tous prier, d'accord? Une minute, ceux qui veulent prier à voix haute, à voix basse, dans leur cœur, pour que cette passion de l'unité grandisse. Elle est là déjà dans nos cœurs, mais qu'elle grandisse. Et va être concret, Seigneur. Je te demande aussi que dans ce temps de prière commune, où tous maintenant on prie, on peut prier en langue, on peut prier avec les paroles intelligentes, comme on veut. Eh bien, que vraiment, Seigneur, tu puisses ouvrir des nouvelles portes à l'unité missionnaire, à l'unité dans le feu, à l'unité dans le feu, à l'unité concrète. Que tu puisses visiter aussi, Seigneur, tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont des idées obtus encore, tous ceux qui ont du mal à rentrer dans la largesse de ton cœur. Seigneur, nous te prions spécialement et je te prie comme prêtre pour tous les prêtres de l'Église catholique, puis tous les pasteurs, je vous invite à prier pour tous les pasteurs de toutes les églises, pour tous les leaders, pour tous les laïcs engagés dans nos églises, pour que, avant que ce soit l'intelligence qui parle, que ce soit le cœur, une unité plus qu'un œcuménisme, une unité de cœur, une unité dans ton feu, Saint-Esprit, souffle sur nous, souffle sur nos engagements, souffle sur nos rêves, souffle, Saint-Esprit, sur nos initiatives, souffle sur nos désirs, souffle aussi sur nos blessures, Seigneur, merci de guérir ces blessures, soit que tu aies été blessé par des frères qui t'ont jugé, qui t'ont accusé, qui t'ont condamné, Seigneur, ou que tu aies toi-même jugé, Seigneur, prends pitié, pardonne-nous aussi, Seigneur, nous te demandons pardon, tous ensemble et chacun dans son cœur, pour les fois où on a blessé ton corps par nos bavardages, par nos médisances, par nos paroles négatives. Seigneur, nous voulons bénir nos frères, nous voulons bénir ton corps qui est l'Église. Ta tunique n'a pas été déchirée à la croix, Jésus. C'est pas pour rien. Ta tunique n'a jamais été déchirée. Nous, nous l'avons déchirée et nous nous sommes repentis, nous nous repentons encore. Mais nous savons que tu as des grands projets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Amen.
On applaudit notre Papa du ciel, notre Père. Alléluia.